Chèvre au Carré, c'est Pauline à Moustier. Je suis éleveuse avec mes chèvres et déjà je voulais vous remercier pour toutes vos émissions et vous demander de continuer de bien faire la différence entre les petits paysans et les gros industriels agroalimentaires parce que nous on élève nos bêtes avec respect dans la colline, on les fait manger dans la nature et on essaye de vivre en faisant ça. Et puis j'avais autre chose à vous dire, surtout c'est ça qui me fait vous appeler aujourd'hui, c'est que depuis une petite semaine il y a une pub pour un abri de piscine qui permet d'avoir sa piscine chauffée pendant tout l'hiver. Enfin, vous voyez, un moment, il faut que France Inter et les équipes des partenariats et du marketing, ils se mettent un peu OK avec votre ligne éditoriale parce que c'est juste pas possible. Bon, bah, je vous embrasse, je vous souhaite plein de soleil et plein de bonnes ondes et continuez la lutte. Ciao!
Bonjour France Inter, ici l'association Aileron de Montpellier. Nous faisons appel à vous pour tenter d'empêcher le déclin des espèces de requins en Europe. En tant que citoyen français, vous pouvez voter pour la fin du commerce d'aileron de requins. Aujourd'hui, première cause de mortalité des populations. Alors, rendez-vous sur la page de l'initiative citoyenne Stop Finning pour faire valoir votre voix. Nous sommes déjà plus de 950 000 à avoir voté et il ne nous reste plus que quelques jours pour atteindre la barre du million. Alors, allez voter et merci.
Gérard de Mareuil-sur-Ourcq, dans l'Oise. J'habite un petit village au creux de la vallée de l'Ourcq, dans l'ancien évêché de l'Aigle de Meaux. Le ciel, la nuit, est bien noir. J'ai même vu l'ISS hier. Une petite chouette accompagne nos nuits en ce moment. Mais la transition écologique transforme cette douceur. La fumée des mauvaises cheminées au mauvais bois. Et surtout les pompes à chaleur qui transforment les villages en parking de Rungis avec tous ces frigos qui fonctionnent jour et nuit.
Delphine de Paris. Bonjour la tête au carré. Nous sommes deux dessinateurs naturalistes et nous revenons tout juste d'une mission en Guyane où nous avons organisé des ateliers de dessin naturaliste dans les écoles afin de faire découvrir notre métier aux enfants. Les enfants ont fait de tellement beaux dessins que nous avons organisé un petit concours. Tout le monde peut voter à ce concours, alors je vous invite tous à vous rendre sur la page Facebook de Comme au carré, comme C-O-M et plus loin O. et carré, dans l'album Concours de dessin naturaliste pour élire votre dessin préféré. Merci.
Voilà, donc vous voyez que même si comme Delphine vous laissez un message à la tête au carré, il sera bien diffusé dans la terre au carré, donc n'hésitez pas, 01 56 40 45 45, ce numéro de téléphone est le vôtre. Utilisez-le quand vous voulez pour nous livrer vos humeurs, vos réactions et vos infos sur l'écologie. Des robots 100% électriques pour désherber les cultures, des caméras embarquées sur les tracteurs pour détecter les mauvaises herbes, des drones pour pulvériser des pesticides au centimètre près, ou encore des applications permettant d'évaluer la maturité des porcelets. Bienvenue dans le monde de l'agriculture de précision. Depuis quelques années déjà, l'industrie propose aux agriculteurs des milliers d'outils et services numériques afin de traiter automatiquement des masses de données produites sur les fermes et donc informer les paysans de la marche à suivre. Si ce secteur est en plein développement et qu'il est largement encouragé entre autres par le ministère de l'Agriculture, et bien les agriculteurs en France sont pourtant loin de succomber au charme de cette agriculture 4.0. Quelles sont donc les promesses de ces nouveaux outils? Sommes-nous réellement face à une nouvelle révolution agricole? Et comment les paysans se projettent-ils dans ces pratiques high-tech? Et bien c'est le dossier de la Terre au carré en partenariat aujourd'hui avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Nos invités pour en parler en studio, la journaliste de Reporter Magali Reiner et Hugo Persillet, animateur et sociétaire de l'Atelier Paysan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis en duplex de France Bleu Hérault à Montpellier, l'ingénieur agronome Corentin Leroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur l'utilisation des outils numériques en agriculture. Vous êtes le créateur d'Aspexit, c'est un bureau d'études sur le numérique en agriculture. Et donc on va se retrouver tous ensemble dans un instant avec les messages et les questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission, bien sûr les réseaux sociaux et l'application France Inter pour vous entendre directement avec les notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et après Sauver Willy, Sauver Woody, l'histoire de ce marcassin retiré à celle qui l'a sauvé chez elle, dans le Lot-et-Garonne.
Et ce sera une belle histoire, on le verra. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi avec à la technique Florian Dorimini.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Voici la première ferme équipée de ce robot totalement autonome. Il mélange et pousse le fourrage 6 fois par jour. Et voici François, éleveur laitier, libéré de cette tâche physique pénible. Dans sa ferme connectée, il peut surveiller son troupeau à distance et il n'a même plus besoin de trier lui-même les vaches qui peuvent sortir et celles qui doivent aller à la traite.
Vous avez vu là, cette vache-là, là, justement, elle vient juste de partir parce qu'elle est autorisée. L'autre qui est derrière, elle n'est pas autorisée. Elle, il faut qu'elle passe au robot. Et elle sait bien, vous avez vu, elle va faire demi-tour.
Cette vache va donc à la traite, toute seule, quand elle en a envie, 24 heures sur 24. Et c'est un robot qui va s'en charger, sans la présence nécessaire d'un agriculteur. Il scanne les pies au rayon laser et place le trillon avec précision. Le robot analyse le lait instantanément et détecte même d'éventuelles maladies.
Voilà, reportage dans le journal de TF1 en 2019 avec François Moisé, qui est éleveur laitier à Parigné, c'est en Ille-et-Vilaine. Les technologies du numérique au service de l'agriculture, exemple donc avec les vaches il y a un instant. Dossier de l'émission en partenariat avec reporter.net pour lequel donc vous avez signé une série d'articles, Magali Reiner, dont le premier sort aujourd'hui sur le site du Quotidien. Vous avez donc enquêté sur les promesses de ces outils numériques, de cette agriculture moderne et sur l'acceptation aussi auprès des agriculteurs. Comment est-ce que vous avez mené cette enquête exactement?
Alors on a effectivement le point de départ, c'est un peu ce qu'on lit sur cette agriculture numérique, hein, qui serait une réponse du coup à la fois aux dérives de l'agriculture industrielle, avec donc une agriculture trop gourmande en pesticides, trop gourmande en eau, mais cette agriculture numérique serait aussi une réponse finalement au défi du changement climatique. Vous l'avez dit, on en parle, c'est le ministre de l'Agriculture, hein, qui a parlé d'une troisième révolution agricole qui serait basée notamment sur la robotique et puis le numérique. Et donc c'est vrai qu'avec Reporter, on s'est dit bon, on va regarder un peu ce qu'il en est, qui utilise cette agriculture numérique, qui la promeut, qui la finance, et finalement vers quel modèle ces outils nous conduisent.
Il y a beaucoup d'outils, hein, qui sont proposés déjà, beaucoup de start-up, hein, qui fabriquent justement ces outils, et vous montrez, et on en parlera évidemment tout à l'heure, qu'il n'y a pas une forte adhésion pour l'instant des agriculteurs français, hein.
Non, il y a alors un certain nombre d'études qui ont été conduite hein, par l'Observatoire de l'utilisation des outils numériques ou par un bureau d'études qui s'appelle BASIC et qui montre qu'effectivement, face à l'offre pléthorique d'outils numériques, il y a quand même assez peu d'agriculteurs qui les adoptent, même s'il y a des exceptions. Alors, il faut dire que c'est quand même ceux qui utilisent ces outils, c'est quand même en général des très grosses exploitations industrielles. Les éleveurs laitiers, ça va être quand même des éleveurs avec plutôt 200, plus de 100 vaches en tout cas. Mm-hmm. C'est vrai que, pareil, hein, pour des outils, par exemple, d'aide à la fertilisation, ça va être les très grandes fermes céréalières qui vont utiliser ces outils. Mais finalement, quand on regarde, alors il y a l'exception des robots de traite et puis aussi de plus en plus du guidage du tracteur par GPS, qui sont quand même les deux choses qui sont vraiment rentrées dans les fermes, hein, cet auto-guidage du tracteur qui facilite à l'agriculteur la conduite de son tracteur sur son exploitation. Mais à part ces deux outils-là, finalement, ça rentre assez peu et on s'aperçoit même qu'il y a certains outils qui sont... Les machines sont équipées d'outils numériques et que les agriculteurs ne les utilisent pas forcément.
Voilà. Hugo Persillet, est-ce qu'on arrive à identifier à quel moment finalement le monde de l'agriculture aurait basculé en tout cas dans ce monde de l'agriculture numérique ?
À peu près au même moment où arrive le numérique dans toutes les sphères de nos vies. Donc on peut le dater en France de la fin des années 90. Et donc c'est pour ça que nous on considère que c'est à la fois pour comprendre hein, l'agriculture numérique, il faut l'inscrire dans un prolongement logique qui commence dans les années 50-60 hein, sur l'équipement, le surmachinisme, le gigantisme agricole. On est dans ce moment-là, à la fin des années 90, avec les moissonneuses de plus en plus grosses, etc.
Et les premiers outils réellement qu'on utilisait alors à ce moment-là, c'est quoi ?
Eh bien, ça arrive en effet par les techniques de communication, notamment le GPS, le téléphone, le début d'Internet vont être utilisés dès le départ. Et là, on bascule en effet. On peut considérer que c'est à la fois une continuité et un basculement dans un autre projet civilisationnel.
Et est-ce que l'ordinateur, tout simplement, est considéré comme l'un de ces outils ? L'ordinateur, ou peut-être y rentre des chiffres, des données qui faisaient avant certainement les agriculteurs sur du papier.
C'est l'arrivée, en effet, de ce qui va donner l'agriculture numérique. Elle s'appelle dans les années 90 agriculture de précision.
Ouais.
Peut-être on reviendra là-dessus. Et du coup, c'est bien l'assistance par ordinateur qui va nous faire rentrer dans ce monde nouveau.
Corentin Leroux, justement, ce terme d'agriculture de précision, vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il revêt, qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce que c'est quasiment une discipline scientifique en soi, non ?
Effectivement, au départ, c'est plutôt une discipline scientifique où l'idée, c'est d'étudier la variabilité des facteurs de production et de la production à différentes échelles spatiales. Ça peut être à l'échelle d'un bassin de production, à l'échelle d'une exploitation, à l'échelle d'une parcelle même, parce qu'on détecte des variabilités au niveau intraparcellaire. Et en fait, ce qu'on va essayer de regarder, c'est du coup la variabilité du sol, la variabilité du rendement, de l'état de la végétation, donc à différentes échelles spatiales. Et on va essayer de regarder aussi cette variabilité au niveau temporel, puisqu'on a tout un tas de facteurs qui vont évoluer dans le temps. Donc on a des paramètres climatiques, on a des paramètres de végétation qui vont évoluer. Et donc c'est une discipline scientifique parce qu'on a développé des outils, des méthodes, des modèles dans la recherche scientifique pour étudier ces variabilités-là. Et à partir de cette connaissance scientifique, effectivement, se sont développés plein de services et d'outils numériques basés là-dessus.
Alors justement, quelques exemples, et très rapides pour qu'on puisse illustrer le propos, Corentin Leroux. Qu'est-ce qui existe en agriculture numérique, par exemple? Donc la donnée, ça on a compris, hein, toutes les données qui sont récoltées. Mais les outils plus concrets, c'est quoi alors?
Les outils, c'est extrêmement large. Là, on a référencé avec un copain sur une plateforme en ligne l'ensemble des outils numériques qui peuvent être utilisés en agriculture. Donc ça va des applications smartphones, ça va des balises effectivement de positionnement GPS, ça va la robotique, ça va des capteurs, des outils de mesure embarqués sur des machines, des stations météo. Ça peut être tout simplement des applications comme des réseaux sociaux comme WhatsApp, des forums élargis pour partager de la connaissance. Ça va être des outils de traçabilité, c'est extrêmement large et c'est très flou aussi, c'est ça aussi qui est compliqué.
On aura des exemples évidemment au cours de cette émission. Magali Renner, vous avez enquêté dans un salon agricole sans odeur, c'est ce que vous dites dans votre article, il s'agit du FIRA, c'est le Forum international de la robotique qui avait lieu le 7 décembre dernier dans la banlieue de Toulouse. C'est là donc que les ingénieurs que vous présentez comme geeks viennent présenter leur dernier robot pour ce milieu-là. Hein.
Oui, c'était un peu étonnant en fait, quand on arrive dans un salon dit où il y a le terme agricole, on s'attend quand même à voir des agriculteurs, et c'est vrai que là il n'y en avait pas.
C'est plutôt des costumes cravates.
Donc c'était vraiment costume cravate, pantalon fuselé, chaussures pointues.
Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Et donc, effectivement, tout un tas de robots qui sont présentés. Donc là, c'était vraiment des robots qui étaient là, surtout, ce qu'ils appellent des enjambeurs, par exemple, pour la vigne, qui vont faire un désherbage automatique, ou des robots de maraîchage qui vont automatiquement semer et puis désherber, avec un argument fort des gens qui sont là. C'est effectivement la question de faciliter le travail, de résoudre le problème de la main-d'œuvre agricole, parce qu'il n'y aurait pas assez de main-d'œuvre, comme la crise du Covid a pu le montrer, par exemple. Donc c'est dans ces idées-là, et puis dire aussi si finalement on peut plus mettre de chimie, il va falloir plus de travail, mais il n'y a pas de main-d'œuvre, donc les robots sont la solution. Mais c'est vrai que dans les faits, les agriculteurs sont pas là, et j'ai interrogé pour l'enquête notamment quelqu'un des coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc ils sont vraiment des gens qui achètent des machines agricoles pour les agriculteurs, et donc cette idée de coopérative permet notamment d'acheter des gros engins. Donc je leur dis, est-ce que vous achetez des robots, puisque ça semble être une promesse. Et là, on avait un discours dit, oh là, les robots, en fait, on n'a pas tellement de retour sur la fiabilité. Finalement, le robot demande des espaces hyper standardisés. Pour nos fermes françaises, c'est quand même pas encore
sur des très grandes surfaces.
Voilà, sur des très grandes surfaces. Bon, on sentait qu'il n'y avait pas d'adhésion très forte, effectivement, pour ce projet.
Je rebondis sur ce que vous disiez sur le fait qu'ils étaient tous en costume cravate, etc. Je me souviens, il y a 2 ans, nous, la Terre au Carré, on était allés au Salon international de l'agriculture à Paris, et on avait, alors je crois que c'était le président des jeunes agriculteurs, en tout cas un représentant des jeunes agriculteurs, qui était en costume cravate et qui nous avait dit, moi, aujourd'hui, je ne suis plus sur le terrain, je suis derrière mes ordinateurs. Je me souviens, ça nous avait assez marqué. Est-ce que Hugo Percier, c'est incompatible, finalement, aujourd'hui, d'être agriculteur et derrière son ordinateur?
Bah, vraisemblablement non.
Et est-ce qu'on n'a pas le droit, en tant qu'agriculteur, de porter des costumes? Je veux dire, enfin, il y a un moment, on rentre dans un cliché aussi.
Oui, c'est ce que j'allais soulever. Là, c'est un peu glissant comme discussion. La question ne se situe pas là, je crois. Je crois qu'il faut considérer les agriculteurs et agricultrices comme des gens extrêmement responsables, de plus en plus diplômés. Là, on vient d'avoir les derniers chiffres du recensement agricole. En gros, il faut un bac +5 ou +6 aujourd'hui pour s'installer en agriculture. Donc, évidemment, faut balayer ces clichés-là, faut balayer l'idée que bah, divine surprise, les paysans utilisent aussi des smartphones, donc devraient être intéressés par le numérique, ce qui est empreint d'un certain mépris de classe, en fait. Hein. On ne vient pas faire les mêmes remarques pour tout à chacun qu'un numérique. Donc non, c'est pas a priori incompatible. Le problème, il n'est pas là. En fait, être paysan, c'est pas qu'une question identitaire. C'est faire face aux contraintes de la vie dans le but de nourrir les gens. Et la question, elle se situe plutôt là que sur des espèces de problèmes culturels, en fait.
Quels sont les avantages de ces outils numériques et pourquoi, pour l'instant, ils ne séduisent pas, en tout cas, les agriculteurs français en grand nombre? C'est le dossier de la Terre au Carré.
Oye, oye, perro guarro, los cojones, me oyes? Oye, tú, ven a mí. O tres horas sin parar. Vamos, vamos, perro, güero, güerito, trae tu cuero, que quiero verte y olerte. La miraba, pero no la veía. Había estado bailando dos o tres horas.
Et Laurent Garnier, quel calor sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Voici la dernière expérimentation agricole encadrée par l'État, un drone d'épandage. Sa mission, asperger 16 litres de traitement biologique contre les maladies au plus près de ce vignoble de l'Aube. Plus sûr, plus discret, plus écologique, pour ce vigneron, ce drone ne présente que des avantages. Michel Jacob a toujours cherché à verdir son exploitation grâce à la science. En plus du drone, il s'est lancé dans cette autre expérimentation, un enjambeur à ultraviolet.
On stimule la plante qui va, avec le passage des UV, donc commencer à synthétiser des molécules susceptibles de la protéger contre les maladies. Alors ça réduit les intrants effectivement de 50 à 60%. Et qui nous permet d'envisager ensuite sereinement l'usage de produits, ce qu'on appelle le biocontrôle, donc qui sont des produits complètement exempts de pesticides chimiques.
Voilà encore un exemple concret d'agriculture numérique avec ce vigneron, Michel Jacob, qui avait l'air tout à fait ravi au micro de France 3 Grand Est en octobre 2020. Et pour en parler, Magali Reiner de reporter.net, Hugo Percier de l'Atelier Paysan et en duplex de France Bleu Hérault. Corentin Leroux, vous êtes ingénieur agronome. Hugo Percier, juste un mot, combien il y a d'agriculteurs en France aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 20 ans? Et est-ce que justement sur la question du renouvellement des générations, l'agriculture numérique ne peut pas répondre aux petits problèmes quand même de renouvellement qui existent? Gros problème même.
Alors, les chiffres viennent de tomber, là, du recensement qui a lieu tous les 10 ans. Donc, c'est des chiffres de 2020, extrêmement récents. On passe en dessous de la barre des 390 000 exploitants.
Ouais.
Ce qui, pour à peu près 180 000 équivalents temps plein, si on compte les salariés. Donc, ce qui montre un recours de plus en plus fréquent aux salariés.
Ils étaient combien dans les années 80?
On était 800 000 dans les années 80.
800 000 en France.
Et là, du coup, on en a perdu 100 000 depuis 2010. Donc, c'est une véritable hémorragie qui continue et qui se fait dans la douleur, en fait.
Alors, justement, est-ce qu'on peut imaginer que ces outils viennent répondre à ce problème de renouvellement des générations, Corentin Leroux ?
Ben, il y a effectivement certains acteurs qui ont tendance à dire que oui, dans le sens où ça peut aussi permettre à certains agriculteurs de rester un petit peu plus longtemps sur les fermes. Ça peut, pour certains jeunes, en tout cas, peut-être un peu plus les attirer dans le milieu agricole. L'idée, c'est pas du tout de dire qu'il y a que cette façon de faire, mais c'est effectivement une façon de l'imaginer aussi. Ouais.
C'est quoi, Magali Reiner, c'est un moyen pour certains outils en tout cas, de réduire peut-être une forme de pénibilité du travail d'agriculteur et d'agricultrice?
Il y a sûrement des outils, et c'est vrai qu'on a cité hein, l'autoguidage des tracteurs qui réduit la pénibilité. Après, je pense que c'est important aussi de voir que ces outils, ils coûtent cher et que du coup, ils participent en fait à des exploitations très capitalistiques qui coûtent très cher et qui, du coup, pour les repreneurs, les jeunes repreneurs, ces exploitations chères, ils n'arrivent pas à les reprendre. Et c'est vrai qu'il y a le problème de l'installation agricole. On dit il y a personne pour reprendre, mais il y a quand même pas mal de gens. Alors moi, j'ai pas de chiffres, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en agriculture, mais qui n'ont pas des moyens d'être sur des grosses exploitations. Et c'est vrai que l'agriculture numérique quand même participe d'investissements dans matériel qui
sont importants. Vous avez un exemple de prix ou pas sur les robots pour la traite,
alors,
par exemple?
Les robots de traite, je crois que c'est autour de 120 000 euros. Les tracteurs, c'est entre 150 000 et 200 000. Voilà, on est
donc
sur
c'est
les
gros investissements. Ouais.
Et justement, Jean-Marc nous dit sur franceinter.fr, le principal frein au développement de toutes ces techniques reste le prix au regard de ce que l'on gagne au final. Et puis on a Hugo Percier, un message de Patrick qui nous écrit, comme nous le savons tous, les logiciels informatiques sont gérés par les mêmes prédateurs. Le domaine agricole n'échappe pas à cette règle. Tout est fait pour mener les agriculteurs là où les prédateurs veulent les emmener. Comment vous réagissez à ça?
Alors oui, en effet, c'est l'habituel, ce que nous propose la modernité depuis les années 60, c'est en fait qu'il n'y ait plus de valeur ajoutée produite sur les fermes, mais qu'elle soit produite en amont et en aval. Et donc ça a créé des mastodontes de l'agro-industrie qu'on connaît, hein, la transformation agricole, des produits alimentaires ultra transformés aujourd'hui, et ça donnait des mastodontes en amont de la production des énormes fabricants. Donc oui, on est toujours dans ce mouvement-là, on transforme les paysans et les paysannes en simples débouchés. Mais là où je voulais intervenir, c'est que la façon dont vous avez posé la question, est-ce que la technologie va résoudre un problème de renouvellement des générations, c'est la façon technicienne de poser la question, c'est la façon solutionniste de poser la question, c'est là où est le cœur du problème en fait, profondément, au-delà de se demander ce que ça va être utile, ces outils. Oui, comme n'importe quelle application d'un téléphone, pris séparément, c'est utile. Ce qu'on a du mal à voir, c'est quelle société ça dessine, et la façon de poser la question, le problème du renouvellement des générations en agriculture qui est urgent de contrer, hein, sinon on va vraiment droit dans le mur, il n'est pas technique. Ce n'est pas un problème technique, le fait de ne pas renouveler. On est en cœur d'un problème socio-économique et politique. Et c'est une volonté politique de passer demain dans les cahiers blancs du ministère de l'Agriculture, le projet, et de ne pas remplacer précisément ces gens-là, non pas parce que c'est pas possible techniquement, mais parce que c'est une volonté de civilisation de passer plutôt autour de 150 000 producteurs pour nourrir tout le monde. Et donc c'est bien à l'ensemble de l'environnement socio-économique et notamment la logique de compétition atroce qui pèse sur les paysans et les paysannes, qui font qu'à la fin ils se retrouvent pendus sous une grange, qu'il faut s'attaquer et non pas à créer l'application qui fera venir des jeunes.
Vous pouvez rappeler le nombre de suicides qu'il y a par an?
Le nombre de suicides, c'est à peu près un par jour, c'est à peu près 300-350. Si on ramène ça à la population, on est dans les toutes premières professions à égalité avec la police. Et donc ce sont des drames, et ceux qui se suicident, c'est pas ceux qui vont vendre des salades sur des marchés, c'est plutôt les gens qui sont au cœur de cette violence compétitive, violence qu'on retrouve aussi dans nos assiettes et dans les inégalités alimentaires. Mais
justement, on verra ce que les consommateurs aussi ont à dire, hein, oui, sur ces procédés qui les concernent évidemment directement. Corentin Leroux, pour vous finalement, qui êtes quand même ingénieur agronome, qui travaillait aussi dans ce domaine des données, l'idée c'est quoi par rapport aux avantages de cette agriculture numérique? Qu'est-ce que vous mettez en avant finalement? C'est que ça fait moins d'erreurs, si on peut dire les choses comme ça, c'est plus précis, c'est quoi finalement les vertus?
Moi, là-dessus, j'ai pas une vision pro high-tech à fond. Alors, je sais pas si c'est la vision que vous essayez de me donner ou pas. Mais moi, je suis assez critique aussi sur le numérique. Moi, je rejoins aussi Hugo sur plein de sujets, sur le fait que la technologie, elle est pas mauvaise en soi. C'est un peu ce qu'on en fait. Il y a aucune technologie qui est neutre. En fait, tout dépend comment est-ce qu'elle est utilisée. C'est vrai qu'on a l'impression que actuellement, elle s'inscrit dans le modèle dominant du complexe un peu agro-industriel. Sur lequel effectivement on va le mettre en avant sur des grosses fermes, des grosses exploitations, et c'est un peu ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qui est mis en avant, c'est le big data, la robotique, l'intelligence artificielle, mais en fait le numérique c'est pas du tout que ça, c'est beaucoup plus large que ça. J'espère qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure, en disant qu'il y a des trucs quand même beaucoup plus low-tech, open source, il y a des trucs beaucoup plus simples à mettre en place. Après effectivement en termes d'apport de ces outils numériques là, ce qui est mis en avant souvent c'est effectivement un gain de temps, du confort de travail, la gestion sur la traçabilité, la gestion des données réglementaires, sur, je sais pas, la mise en réseau, sur l'utilisation de sites e-commerce pour faciliter l'achat d'intrants ou autre. Mais je rejoins Hugo sur plein de sujets, sur ce qu'il a expliqué. C'est pas du tout, enfin, c'est la technologie, c'est pas du tout la voie d'entrée pour répondre à ces problématiques agricoles, quoi.
Alors, le bien-être des agriculteurs, justement, on va l'entendre avec une personne que vous aviez rencontrée, Camille, pour la Terre au Carré, en allant sur le plus grand campus agricole du monde, 7 hectares. 600 hectares donc aux portes de Paris, c'est un campus donc de formation, un accélérateur de start-up et d'innovation, une ferme pilote aussi, vous l'aviez montré, en agriculture, le tout entre autres financé par Xavier Niel, entrepreneur. Vous étiez allé sur place donc et vous aviez rencontré Audrey Bourrelo, elle est cofondatrice donc avec Xavier Niel de ce campus, ancienne conseillère à l'Élysée d'Emmanuel Macron, et voilà ce qu'elle disait.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a d'autres façons de travailler dans ces métiers-là et qu'on ne doit pas opposer l'environnement et la tech. La tech n'est qu'un moyen, un outil, elle ne remplace pas l'homme. Elle est là pour pouvoir aussi redonner des conditions un peu différentes de la façon de travailler. Les vaches sont en plein air, elles sont élevées 100% à l'herbe. Pour autant, elles ont aussi un collier qui nous permet de collecter la data et d'être un accompagnement dans notre décision. Ça ne remplace en aucun cas l'œil de l'éleveur. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des entrepreneurs agricoles heureux, bien dans leurs baskets ou dans leurs bottes, et qui puissent redonner de l'emploi local dans les territoires.
Magali Reiner, vous en avez rencontré beaucoup, des agriculteurs heureux, justement, en faisant appel à cette agriculture numérique.
Des entrepreneurs agricoles. C'est vrai que cette question de la façon dont ça transforme la décision, qu'est-ce qui est de l'aide à la décision, qu'est-ce qui se substitue au savoir-faire, en fait, c'est là, moi, j'ai pas complètement résolu cette question-là, mais je pense que c'est un peu central, en fait, dans cette question d'agriculture numérique, hein, puisque c'est vraiment le big data appliqué à l'agriculture. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même des données massivement collectées sur des fermes qui permettent de faire tourner des modèles, des modèles informatiques et qui là produisent des décisions. Donc c'est quand même plus l'observation directe sur la ferme, ni le savoir-faire lié à cette observation et à cette pratique qui guide les décisions, mais c'est quand même un système technologique qui est basé, voilà, c'est le système du big data. Et donc du coup, cette transformation-là, je sais pas si on mesure encore complètement comment ça va changer l'agriculture, mais c'est vrai que ça pose en tout cas des questions.
Vous dites que ça marginalise en tout cas les agriculteurs dans cette enquête, on y reviendra dans un instant avec vous et avec nos invités, vos messages bien sûr sur France Inter.fr.
France Inter. La Terre au Carré.
14h32, Camille, passe au vert.
Et c'est le genre d'histoire que j'adore vous raconter. Celle de Woody et Véronique dans le Lot-et-Garonne. Alors Woody, c'est un marcassin, un bébé sanglier, que Véronique Consolo, ambulancière, a récupéré chez elle il y a quelques mois.
Alors Woody, il a débarqué chez moi le 19 septembre, poursuivi par deux chiens. Il était tellement petit qu'il est passé à travers les mailles du grillage.
À peine 1 kilo et réfugié sur le terrain de 2000 m² de Véronique, à la sortie du village du Léda, qui a d'abord le réflexe bien logique de vouloir le relâcher dans son milieu naturel.
J'ai attendu que les chasseurs partent pour amener ce petit dans le champ de maïs. Puis il est revenu, et puis j'ai fait ça 4 fois, il est revenu. Complètement affamé, pas très très épais, avec une diarrhée pas possible. Donc j'ai essayé de lui donner à manger, il a refusé de manger solide, il a refusé de manger dans un bol, donc je lui ai donné un biberon, et il l'a pris.
Voilà, le marcassin nourri avec du lait spécial porcelé, baptisé donc Woody, stérilisé, testé pour être sûr qu'il est sain, et intégré à la famille qui compte aussi des chiens, des chats, 2 poules, 2 canards et une truie vietnamienne.
Je l'appelle et il vient, je le siffle, il arrive. Voilà, la journée il est dehors avec ma truie, il va retourner le terrain, j'ai une marde boueuse, il adore aller s'amuser dedans. Et puis le soir il rentre, alors il dort encore dans sa panière pour chien à l'intérieur, mais c'est encore un gros bébé je dirais.
un sanglier domestique. C'est autorisé par la loi, sachez-le. Louis de Redon est avocat et maître de conférence en droit de l'environnement à AgroParisTech et Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Évidemment, la place d'un animal sauvage est dans la nature. Maintenant, il est possible effectivement de venir notamment au secours d'un animal. Et en l'occurrence, en ce qui concerne le sanglier, puisque ça varie d'une espèce à l'autre, la loi dispose qu'une personne peut avoir un sanglier et s'en occuper, et que c'est un régime déclaratif, donc il faut se déclarer à l'administration, respecter un certain nombre d'obligations que Madame Consolo a respectées.
Madame Consolo, sa cliente désormais, parce que sa déclaration de détention a été refusée par la préfecture, qui a donc envoyé des troupes embarquer Woody, c'était jeudi dernier.
C'est l'OSB qui est arrivé, accompagné de deux gendarmes, au cas où je m'opposerais. Voilà, ils sont rentrés chez moi, ils ont pris le petit, ils sont partis.
Sans lui dire où ils emmenaient Woody, Véronique a le cœur brisé.
Moi je pleure sur le sort du petit qui est tellement imprégné, qui est tellement habitué. Il est parti, ils n'ont même pas daigné prendre une de sa couverture pour qu'il ait une odeur qui le rassure, rien.
La mobilisation est lancée avec une pétition « Sauvons Woody » qui a aujourd'hui plus de 63 000 signatures pour qu'il retrouve son voilier. Et alors, avant de vous donner la suite de l'histoire, je me suis quand même demandé, poser cette question, aussi mignon soit Woody, un sanglier peut-il être bien loin de la forêt? C'est l'éthologue Cédric Sueur qui m'a répondu de l'Université de Strasbourg.
C'est certain que, comme n'importe quelle espèce, il serait mieux avec des congénères, je dirais. Mais le sanglier est une espèce qui est très intelligente. On le considère autant intelligente que le chien, si c'est pas forcément plus.
Eh oui, je ne le savais pas. Et Woody ne serait plus capable aujourd'hui de survivre dans le milieu naturel.
Le problème avec Woody, c'est que c'est un petit qui n'a pas regardé sa mère comment elle se nourrissait et qui n'a pas cherché lui-même sa nourriture. Donc là, c'est encore plus dangereux pour ce petit et il peut être rejeté par les autres individus.
Donc là, si on le mettait au milieu d'une forêt, il se passerait quoi?
Il aurait eu de grandes chances de mourir. Et en général, pour des règles sanitaires, d'ailleurs, s'il est récupéré, il n'est pas relâché. Il est mis à mort.
Eh oui, je ne le savais pas non plus, mais il arrive que les autorités éliminent les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, communément appelées les nuisibles, dont font partie les sangliers. Sinon, ils sont éventuellement placés dans des refuges. Donc, quel sort va être réservé à Woody? Le tribunal devait trancher lundi prochain, mais il semble que face au tintouin, la préfecture soit en train de faire marche arrière. Hier soir, peu après que j'ai appelé Véronique Consolo, elle a reçu un courrier électronique, donc je l'ai eu à nouveau tout à l'heure.
J'ai reçu un message de la préfecture, en tout cas, qui me donne bon espoir, oui.
Alors, elle pourrait donc peut-être récupérer Woody.
Là, je suis arrivée sur le téléphone et puis j'use le carrelage de mon salon en faisant les 100 pas.
C'est le préfet qui va trancher dans les heures qui viennent. Suspense. Mais même si l'issue serait heureuse pour Véronique et son petit, vous avez entendu comme elle dit, l'éthologue Cédric Sueur rappelle quelques bons points à garder en tête.
On peut pas se mettre à adopter n'importe quel individu qui se met à traîner autour de chez vous d'un seul coup, parce qu'il y a des problèmes de maladie, parce qu'il y a des problèmes au bout d'un moment où l'individu peut devenir dangereux, par exemple des cerfs ou des chevreuils en période de rute. Si vous prenez un carnivore, c'est encore pire. En général, quand on trouve un individu, s'il est pas blessé, on le laisse là où il est. S'il est blessé, on cherche à appeler un centre de sauvegarde qui, lui, va le soigner.
Voilà, donc Bambi, c'est pas à la maison, s'il vous plaît. Et Woody doit rester une exception.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr avec les photos de Woody que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux.
Hugo Persillet, est-ce que les sangliers, on en parle beaucoup là, espèces qui sont susceptibles d'occasionner des dégâts pour l'agriculture, souvent les chasseurs se défendent en disant qu'ils servent à réguler et à éviter. Vous, en tant que paysan, qu'est-ce que vous avez comme avis
en tant
là-dessus?
Que représentant d'une coopérative paysanne, j'ai un avis forcément nuancé. On ne peut pas dire que le sanglier n'est pas un problème, en fait, notamment dû au réchauffement climatique, dû aussi à des pratiques, on va dire, non vertueuses, des chasseurs qui les reproduisent eux-mêmes, ça crée de réels dégâts. Et les maraîchers sont réellement confrontés à des problèmes, notamment depuis que, sous Nicolas Sarkozy, c'est la fédération de chasse qui est chargée directement d'indemniser les maraîchers, ça crée un conflit incroyable. En fait, il y a un vrai sujet autour de ça, et le sujet peut-être aveugle, à peine évoqué là, par l'interlocuteur tout à l'heure, c'est que je pense que cette histoire, moi, elle m'évoque qu'elle arrive en plein moment particulier sur l'élevage du cochon où la grippe porcine est en train de prendre des... Donc je pense que c'est un des leviers là de la réaction de la... Les explications de la réaction de la préfecture. En fait, c'est qu'au-delà de la question générale autour de l'animal sauvage domestique, etc.
Sachant que cet animal-là a été testé, il était sain.
Mais il y a une vraie parano, en fait. Une vraie parano qui rejoint notre discussion de tout à l'heure, en fait. C'est l'approche technique techniciste scientifique qu'on qualifie, nous, de réductionniste. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est un terme, en fait. Et je pense qu'Orentin pourra nous en parler de ça. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, la modulation intraparcellaire. Là, on parle de modulation intra-animale, maintenant. C'est-à-dire, en gros, ce leurre-là de la science qu'en prenant une chose, en faisant varier un seul paramètre, eh ben, on va créer du savoir autour de ça, etc. Et en fait, c'est la philosophie qui sous-entend toute la technologisation de l'agriculture, et c'est aussi l'agronomie qui est sous-entendue derrière. On va revenir à quelque chose de concret. L'agronomie qui est derrière, elle est réductionniste, et ce qui fait que, en changeant un seul paramètre, on peut très bien dire qu'en fait, on n'a pas besoin de la terre, où on n'a pas besoin d'une saison, où on n'a pas besoin de l'eau, etc., etc. Et donc, petit à petit, on s'éloigne en effet de l'anthropologie de l'humain en lien avec sa terre, qui est bien quelque chose d'observation, qui est d'essayer de vivre avec, etc. Et là, on se distance.
Magali Reiner, vous êtes allée justement dans le Gard, près de Tarascon. On en parlera dans un instant pour découvrir Futura Gaia. C'est un modèle alors ultra poussé, justement, de ferme pilote très loin de la terre. Amour toujours, Clara Luciani.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier, sur France Inter.
Bonjour Violaine de Nice. Dans un pays où il n'y a plus que 400 000 exploitations agricoles, pourquoi encore plus mécaniser et endetter les paysans qui restent? De plus, on sait que les métaux et terres rares qui servent à faire ces robots sont comptés et que certains ne seront plus disponibles d'ici quelques années. Alors pourquoi ne pas aller plutôt vers des micro-fermes agroécologiques, plus low-tech, fortement génératrices d'emplois, 4 millions en estimation, de bien-être pour les vivants et la planète, et beaucoup plus résilientes? Mais quelle folle course démente et suicidaire! À bientôt, au revoir.
Merci Violaine pour votre appel reçu donc à l'instant sur l'application France Inter. On parle de l'agriculture numérique avec nos invités Magali Reiner, Hugo Persillet et Corentin Leroux en duplex de France Bleu à Montpellier. Corentin Leroux, pour répondre justement à Violaine, parce qu'on a le sentiment depuis le début de l'émission que finalement cette agriculture, ces outils, ces robots, ils sont plutôt dirigés vers des très très grandes exploitations. Est-ce qu'on peut imaginer trouver ces outils dans des micro-fermes justement ou pas du tout?
Oui, oui, complètement. Encore une fois, l'idée, c'est de montrer que le numérique, c'est quand même beaucoup plus large que ce qui est mis en avant vraiment dans les médias mainstream sur cette histoire de robotique, de big data. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a vraiment des outils beaucoup plus simples qu'on peut utiliser. Pour revenir sur ce que disait effectivement Violaine sur les métaux, les terres rares, sur cette empreinte carbone aussi du numérique qu'il y a, sur laquelle j'ai pas mal travaillé aussi. Effectivement, c'est un enjeu à part entière, dans le sens où on a tendance à mettre en avant le numérique comme une façon de réduire notre impact sur l'environnement, de réduire optimiser l'utilisation des ressources, alors qu'en fait le numérique en lui-même a un impact et qu'il faut pas négliger. Et donc du coup ça c'est effectivement une question hyper importante et qui est encore assez peu traitée je trouve. Mais le numérique, encore une fois j'insiste sur le fait que c'est beaucoup plus large que simplement ces sujets mis en avant ici quoi.
Magali Reinhardt, justement quand on fait de l'agriculture de précision, est-ce que ça permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires par exemple ?
Alors, peut-être que Corentin serait mieux placé pour parler de moi de ces évaluations hein, qui ont pu être menées. C'est vrai qu'il y a un des outils, ces outils d'aide à la décision, qui est finalement le plus développé, c'est sur la fertilisation azotée. Et donc, il y a une étude qui a été faite au niveau européen qui dit qu'effectivement, voilà, ça permettrait si on va appliquer exactement la dose d'engrais azoté là où il faut, finalement. On en mettrait un peu moins en gardant les mêmes niveaux de rendement. Après, c'est vrai que ça, c'est des évaluations qui sont faites. Moi, j'ai pas
Hugo Persillet, on parle au conditionnel, mais est-ce que dans les faits, c'est vraiment une économie en termes de produits utilisés ou pas ?
On dirait oui et non. Oui, sur le papier, oui, en effet, c'est le but. Du coup, ils vont y arriver. Donc, il y a des logiciels pour conduite, par exemple, éviter les dérives quand on pulvérise. Voilà, il y a tout un certain nombre de choses qui, sur le papier, en effet, marchent. Par contre, il y a une réalité macroéconomique depuis 20 ans, donc depuis le déploiement de ces outillages, on a trois fois plus de pesticides qui ont été épandus dans le territoire. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'à la fois, on met un appareillage incroyable, une escalade hein, dont parlait Violaine, une vraie escalade qu'il faut inverser, et il y a aussi les pratiques biologiques, etc., qui prennent de plus en plus de place, mais dans le même temps. On a trois fois plus de pesticides qui sont épandus et du coup ça permet quand même de s'interroger.
Il faut voir un lien direct entre les grandes firmes qui sont à l'origine justement de ces outils numériques et ceux qui produisent aussi des produits phytosanitaires. On peut penser à Bayer par exemple, qui a racheté Monsanto.
Voilà Bayer qui est donc un des géants de l'agrochimie et c'est vrai que quand on regarde sur le site de Bayer, qu'est-ce qu'ils proposent comme outils, on a une liste d'applications mobiles gratuites pour les agriculteurs et qui leur proposent d'arriver à mieux identifier les mauvaises herbes ou les insectes ravageurs ou les maladies ou d'arriver à mieux planifier ces pulvérisations. Donc c'est vrai que cette agriculture de précision, puisqu'il s'agit de faire mieux avec moins, mais il s'agit quand même toujours de faire avec et donc ça permet effectivement de poursuivre l'utilisation des produits phytosanitaires.
Bayer qui a fait un communiqué de presse le 17 novembre pour annoncer un immense partenariat qui venait de signer avec Microsoft.
Ouais. Corentin Leroux, Bayer, quand ils mettent à disposition, par exemple en France, une dizaine d'applications gratuites, l'idée aussi, c'est de récolter de la donnée derrière.
Si je peux juste revenir juste sur la discussion d'avant sur le gain ou le coût économique de ces outils-là, ce qui est effectivement assez compliqué à juger sur ces outils numériques, c'est le retour sur investissement de ces outils. Il est extrêmement compliqué à mesurer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à avancer toujours dans ce sens-là. La Magali parlait effectivement de bonne dose au bon endroit. Effectivement, parfois, on arrive à spatialiser un petit peu mieux les doses ou les ressources qu'on va utiliser. Donc, potentiellement, on utilise un petit peu moins, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on en utilise plus, justement, au contraire, parce que les modèles agronomiques qui sont sous-jacents, qui sont derrière, vont permettre d'en appliquer un petit peu plus. Et un des autres soucis qu'il y a derrière, c'est en général sur les coûts qui sont mis en avant à l'hectare, c'est des coûts qui prennent pas forcément en compte la totalité de la prestation. C'est-à-dire que souvent, vous avez l'outil en place, mais ça prend pas en compte forcément l'amortissement de l'investissement sur les outils. Ça prend pas forcément en compte le passage d'un opérateur ou d'un technicien pour, je sais pas, par exemple, faire une analyse de sol pour un peu étalonner ces outils-là. Et donc, du coup, ça pose quand même pas mal de questions. Et puis derrière, sur le modèle économique plus général de ces entreprises du numérique, ça pose aussi question, c'est des entreprises qui ont un modèle qui se base principalement sur une réduction des ressources, une économie d'intrants, ou sur une hausse de rendement. Et on peut se demander ce qui va se passer avec un réchauffement climatique qui va conduire indirectement à une baisse de rendement et à potentiellement des nouveaux modèles agricoles où on va substituer des intrants par d'autres, où on va complètement redesigner les modèles et plus du tout utiliser des intrants. Donc du coup, comment est-ce que ces entreprises-là vont se positionner par rapport à ce nouveau paradigme ? Est-ce que ces modèles économiques seront toujours viables ou pas ?
Camille.
Une question de Jérémy sur France Inter, une remarque de Jérémy sur franceinter.fr. Premier outil technologique pour l'agriculteur, son œil, et cela depuis des millénaires, on n'a rien fait de mieux, nous dit-il. Et puis sur Facebook, Florian nous écrit ça. Éloigner un peu plus l'exploitant agricole de sa terre, l'endetter davantage avec des machines inutiles. Il nous faut absolument aujourd'hui cultiver avec le vivant et non contre le vivant. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Hugo Persillet, sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'espèce de mise à distance finalement ?
Oui, la question du sensible, d'une part, et du savoir-faire, en fait. La réponse, on la connaît. La réponse, c'est généraliser l'agroécologie. Et il se trouve que l'agroécologie, ça tombe bien, ça fait 60 ans qu'elle a fait la preuve qu'elle sait à peu près tout faire avec à peu près une approche inverse au réductionnisme scientifique, une approche basée sur le sensible. Et donc, nous, à l'Atelier Paysan, les paysans essayent de se fabriquer les outils qui vont avec, donc des outils qui sont par nature extrêmement opposés.
C'est-à-dire,
à ces outils-là.
C'est justement l'idée de l'autonomie pour les paysans qui fabriquent eux-mêmes, c'est ça, les machines dont ils ont besoin ?
C'est ça, donc c'est ça le cœur de l'Atelier Paysan. Les paysans et les paysannes conçoivent leur propre matériel et puis après mettent en place des formations pour apprendre à travailler le métal eux-mêmes. Donc ça augmente l'autonomie sur la ferme, c'est-à-dire le lien à la dépendance dont on parlait, dont on aura parlé au Corentin, c'est-à-dire la dépendance non seulement à l'achat de la machine, à l'endettement que ça fait, mais aussi à tout l'accompagnement des techniciens, etc. En gros, une machine industrielle, c'est une boîte noire technologique comme nos bagnoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les réparer, c'est fait exprès. Elles sont extrêmement complexes à fabriquer pour un usage extrêmement simple. Vous voyez, le truc autoporté, on appuie sur un bouton, ça conduit tout seul. Je caricature, mais à peine. Alors que les machines dont on a besoin pour généraliser l'agroécologie, c'est l'inverse. C'est des machines extrêmement simples de conception, extrêmement simplement reproductibles.
Quelles machines, par exemple ?
Oh bah, par exemple, les
un tracteur.
Un tracteur, c'est déjà gros, mais pourquoi pas ? On fait des tracteurs à pédales, des tracteurs, des choses comme ça. Mais des outils qu'on va mettre derrière le tracteur pour un maraîchage, pour biner, pour justement se passer de pesticides. On a besoin de travailler la terre et pour pas employer que des esclaves ou travailler bénévolement ou sortir une carotte à 50 euros le kilo, eh ben on est obligé de désherber avec un peu de mécanique.
Mais c'est totalement incompatible avec l'idée du numérique quel qu'il soit, parce qu'on a vu que le panel est très large sur les outils proposés, mais ce que vous nous décrivez avec l'atelier paysan, par exemple, est-ce que c'est vraiment exclure absolument les nouvelles technologies ?
Non, il ne s'agit pas de les exclure absolument. L'idée, c'est d'attraper le problème par l'opposé. C'est-à-dire, on va commencer par se fabriquer ce qu'on sait faire nous-mêmes. Après, si chaque individu veut rajouter un GPS sur son truc, à la limite, c'est pas la question. La question, c'est sommes-nous en capacité de maîtriser nos innovations, collectivement ? Et donc, il s'agit de nous bâtir des vraies institutions, il s'agit de faire parlement sur les questions technologiques, pour qu'on puisse refuser des choses qui nous sont imposées. Et il faut mettre en place des institutions populaires anti-GAFAM, anti-captation du savoir comme ça. La question, elle est plutôt là qu'une espèce d'incompatibilité de base.
Il y a combien juste d'adhérents à l'Atelier Paysan ?
L'Atelier Paysan, c'est une coopérative, donc c'est pas une association. Donc il y a 160 copropriétaires, paysans et paysannes, mais pour à peu près des milliers d'usagers et d'usagères. On forme 700 à 800 personnes par an, et on n'a pas d'idée de combien de personnes viennent utiliser les plans, vu que tout est en open source et gratuit sur le site.
Magali Reiner, vous souhaitiez réagir ?
Ouais, non, peut-être, effectivement. Moi, j'ai rencontré un geek agriculteur, donc qui arrivait très autonome parce qu'il avait réussi, par exemple, lui, sur son tracteur, à se monter un système d'autoguidage tout seul parce que c'était un geek, ou qu'il utilisait des photos aériennes satellites justement pour mieux connaître ses parcelles. Donc il avait un peu ce double profil, mais c'est clairement un peu l'exception et on voit bien que c'est globalement des outils dont il est difficile d'être autonome. Peut-être aussi autre chose, il y a quand même cette espèce de contradiction qui n'est pas forcément évidente de se dire que finalement le numérique c'est des outils très compliqués mais qui quand même pour fonctionner ont besoin d'écosystèmes assez simples et là voilà parce que effectivement on doit prendre massivement des données sur une ferme, c'est quand même plus facile si c'est une ferme qui fait que des céréales avec la même variété de blé que si c'est un écosystème complexe avec des cultures, avec des rotations, avec des arbres et des choses comme ça et que du coup quand même ce traitement par des modèles informatiques elle pousse à une simplification des écosystèmes. Et voilà, je trouve que c'est
Corentin Leroux, vous souhaitiez aussi réagir ?
Ouais, je pense qu'il faut juste garder aussi à l'esprit qu'il y a effectivement plein de trajectoires différentes de numérisation. Hugo et Magali effectivement en ont parlé. On va se simplifier la vie, on va mesurer des paramètres qu'on peut mesurer. C'est-à-dire que ceux qu'on va pas pouvoir mesurer parce qu'on n'a pas les outils ou les modèles en place, on va pas le faire. Donc effectivement, on va se simplifier un petit peu la vie. Mmh. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire que dans une approche binaire, effectivement, on peut rejeter toutes les technologies numériques. Par exemple, l'atelier paysan ont développé un logiciel de gestion parcellaire, de gestion de planification pour le maraîchage. Ça montre bien que tout le monde est capable d'utiliser la technologie. Et sur ces points de vue agroécologie, en fait, on peut effectivement tout à fait imaginer des outils numériques, pour outiller un petit peu la biologie, essayer de suivre un petit
Donc
peu
c'est
les
pas
processus
totalement biologiques,
des interactions. Ouais. C'est pas du tout complètement incompatible, au contraire.
Oui. Magali Renner, vous êtes allé pour reporter.net dans le Gard, donc je le disais, près de Tarascon, pour découvrir Futura Gaia. C'est le modèle poussé à l'extrême d'une ferme pilote. On écoute juste un extrait rapide d'un reportage de France 2, c'était en juillet 2020.
Quand on rentre, c'est la ferme du futur. Des cylindres, où poussent des centaines de plantes, où rien n'est laissé au hasard. Une agriculture verticale sur des barquettes de terreau, enrichie d'une juste dose de champignons et de bactéries. Le tout arrosé d'un cocktail de nutriments.
Ces bidons contiennent des produits naturels qui sont de l'azote, du phosphore, du potassium, du calcium. On va simplement les microdoser. Donc on a un ordinateur que l'on a conçu qui permet de pouvoir absorber le liquide dans un des bidons et va, en fonction de la plante que l'on va chercher à nourrir, va calculer la quantité de nutriments. Et c'est ce mélange-là qui va être injecté tous les jours à l'intérieur des plantes.
Avec cette culture d'intérieur, plus de grêle ou d'aléas climatiques. Une production égale toute l'année, quelles que soient les saisons. Bernard Angelras y voit quelques avantages.
On peut, à travers ce type de produit, satisfaire le consommateur dans différentes zones, tout en s'approchant le plus possible des villes et donc des lieux de consommation, ce qui évite toute la problématique des transports et tout ça, qui aujourd'hui cause énormément de problèmes en matière de rejet de CO2 de l'atmosphère.
Voilà une façon de mettre en valeur justement cette agriculture numérique en répondant à un certain nombre de problèmes, dont celui des émissions de gaz à effet de serre, puisque l'objet de ces fermes, c'est de pouvoir s'implanter n'importe où dans les centres urbains par exemple.
Oui, il y a cette idée de ferme verticale, hein, effectivement hors sol du coup, qui est plutôt sur la hauteur. Après, c'est quand même des milieux qui sont entièrement contrôlés. Dans le Gard, une exploitation dans des hangars aveugles, ça pose question. Il y a du soleil qui est là. L'agroécologie voudrait qu'on utilise au maximum le soleil comme une ressource disponible. Et c'est vrai qu'en en parlant là lors de cette visite, je dis mais du coup toute l'énergie mobilisée en fait pour un hangar comme ça. Et dans ces modèles-là, justement, la question de l'énergie n'est pas tellement problématique, parce que la réponse qui m'a été faite, c'est que voilà, il y a de l'énergie renouvelable, il y a du nucléaire, donc ça, c'est pas un facteur limitant. Aujourd'hui, le facteur limitant, c'est l'eau, c'est supprimer les produits chimiques, parce que c'est quand même des fermes en milieu stérile. Donc on rentre avec une charlotte et des chaussons, puisque l'idée, c'est quoi là, puisqu'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas non plus de parasites.
Et tout fonctionne à la lumière artificielle.
Tout fonctionne à la lumière artificielle, la température, l'humidité, le vent est recréé par des souffleries aussi pour fortifier les plantes et qu'elles soient soumises. Donc vraiment, l'idée, c'est un milieu qui serait, c'est comme ça que ça m'a été dit, hein, la meilleure journée tous les jours pour les plantes.
Une question de Patrice sur franceinter.fr. Est-ce que le consommateur n'aurait pas, s'il vous plaît, sa petite part de responsabilité là-dedans, Hugo Persillé? Que fait le consommateur? Quelle est sa marge de manœuvre?
La responsabilité du consommateur. Eh ben moi, ça me fait penser à la remarque de Violaine tout à l'heure qui disait qu'il faudrait aller vers des micro-fermes, etc. Sous-entendu peut-être qu'en fait, il faudrait que les agriculteurs changent. Et le miroir, c'est il faudrait que les consommateurs changent. Et nous, on pose dans notre manifeste Reprendre la terre aux machines, à l'adresse de nos amis consommateurs et paysans, un point d'alerte. En fait, il faut sortir absolument de cette idéologie de la responsabilité individuelle de chacun. T'as qu'à traverser la rue et aller à la Biocoop et arrêter d'acheter des smartphones. Et tu pourras acheter tes carottes plus chères. Voilà ce qu'on entend tous les jours. Alors qu'en fait, ça escamote le gros du sujet qu'on est en train d'attaquer là ensemble. Il s'agit bien d'un modèle socio-économique à changer. Là, la démonstration de nos agricultures bio, que le fait qu'elles touchent les consommateurs, n'est plus à faire. Par contre, on ne sait pas faire une agroécologie au même prix que l'industrie. Et Nous sommes face à des inégalités alimentaires en France terribles. Une personne sur deux ne mange pas ce qu'elle souhaiterait manger si elle avait son budget. Il y a eu triplement de l'accès à l'aide alimentaire depuis le Covid.
On nous vend aussi l'agriculture numérique comme pouvant répondre à la souveraineté alimentaire, justement. Hein. C'est un mythe. Ce que dit le ministre de l'Agriculture. Hein.
C'est un mythe. L'idée est de garder cette dualité de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y aura une agroécologie pour que les classes aisées puissent se nourrir, et puis on va faire du bio robotisé pour aller
Corentin Leroux. Corentin Leroux, pour terminer, on a 10 secondes.
Et juste pour dire que là, vous avez présenté l'exemple de l'agriculture verticale. Pour moi, je pense qu'on va pas nourrir le monde avec l'agriculture verticale. C'est un exemple, effectivement, d'outils numériques, mais bon, c'est pas le seul. Ce que je voulais dire aussi, effectivement, il y a un imaginaire derrière le numérique, effectivement, qu'on va pouvoir augmenter la production pour réduire le problème de la sécurité alimentaire. Je pense qu'effectivement, on est un peu loin du sujet. En fait, le problème, il n'est pas que sur l'augmentation de la production, il est vraiment sur la distribution.
Merci à vous, Corentin Leroux. L'émission s'achève. En tout cas, on pourra découvrir l'ensemble de ce dossier sur reporter.net, une série de 4 articles que vous proposez à partir d'aujourd'hui, donc sur le site du quotidien de l'écologie. Merci à tous les trois. Et puis, je renvoie vers ce livre, Reprendre la terre aux machines, l'atelier paysan, c'est aux éditions du Seuil.